Bonjour à tous. J'ai pas eu l'occasion d'en saluer beaucoup ce matin, mais ça me fait très plaisir d'être parmi vous aujourd'hui dans cette journée mondiale des explorateurs. Alors j'en repère quelques-uns avec les uniformes et Gabriel, j'ai une pensée pour toi parce que il y a à peu près 6 semaines, tu étais aux États-Unis et là, à combien vous étiez d'explorateurs? 50 000. Ça change. Je vous assure que pour l'avoir vécu, c'est impressionnant. Ils sont tous avec des uniformes différents, mais en tant que franco-belge, eh bien, on fait une petite tache bleue dans un immense terrain. Voilà, c'est assez impressionnant. Et justement, le texte que nous voulons lire, je l'aime beaucoup, pour 3 raisons. La première, c'est qu'elle est nostalgique. Le lac de Génézareth, c'est vrai que c'est très gentil d'avoir prévu un lac aujourd'hui, ici. Mais j'espère ne pas tomber dedans, il y a un baptême cet après-midi. Mais voici le vrai lac de Génézareth ou le lac de Galilée. C'est vraiment un endroit que j'aime beaucoup, apaisant, calme. Les collines, on a chanté « Je veux monter sur la montagne ». Eh bien, voilà, c'est peut-être pas le Sinaï, mais il y a de très belles collines. C'est vraiment un lieu propice à la méditation. Et effectivement, c'est là que la foule va se rassembler. Oh, pas les 50 000. On ne sait pas combien ils étaient. Je ne sais pas si vous vous considérez comme une foule aujourd'hui. En tout cas, il y a un homme qui parle et c'est Jésus. Il est entouré d'hommes, de femmes et d'enfants. La deuxième raison pour laquelle j'aime ce récit, c'est parce que c'est un récit miraculeux. Au début, pas de poissons et puis des poissons. Comme un coup de baguette magique, on n'a pas de poissons et puis on a des poissons. Waouh ! Est-ce que vous aimez les contes de fées, ceux qui fonctionnent avec la baguette magique ? Les adultes, est-ce que vous croyez encore aux contes de fées? Est-ce que vous croyez à la baguette magique? Mais est-ce que vous croyez aux miracles? Ah! Alors, quelle différence entre une baguette magique et un miracle? En fait, il faut peut-être voir les choses différemment parce que quand la Bible parle de miracles, elle parle de signes. Et un signe, c'est quand même quelque chose de différent qu'une formule magique, qu'un abracadabra. Alors oui, il se passe quelque chose de miraculeux, mais peut-être qu'il faut aller plus loin que l'aspect superficiel du abracadabra. Et en tant qu'explo, je pense que c'est aussi ce qu'on nous apprend à faire. Aller gratter un peu les choses, remettre des choses en question, aller plus en profondeur. Alors oui, j'aime ce récit miraculeux parce qu'il va plus loin que l'aspect miraculeux. Et la troisième raison, eh bien, c'est parce qu'on va parler d'un sacré gaillard. Pierre, Simon, Pierre, ça dépend comment on l'appelle. Ah, je l'aime beaucoup parce qu'il a un tempérament de feu. Et j'avoue que son côté sanguin ressemble parfois au mien, même si ça ne me plaît pas trop. La différence entre Pierre et moi, c'est que, ben, on n'a pas forcément le même âge. Parce que c'est vrai, on les voit souvent, nos disciples ou nos apôtres, avec des longues barbes. Mais en réalité, je pense qu'ils étaient bien plus jeunes que ça. Kolia, tu as peut-être une idée? Oui, Kolia, je ne vois pas. Quel âge il devait avoir? Une vingtaine d'années, oui, c'est ça. Donc, peut-être plus tout à fait explo, mais pas encore la quarantaine, voire la cinquantaine. Et j'aime bien ce personnage parce que, justement, il peut nous interpeller à la fois jeunes comme adultes. C'est un peu un pied de chaque côté et ça me plaît. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Pierre est jeune, probablement physiquement, mais il est aussi jeune dans la foi. Ça ne fait pas si longtemps que ça qu'il a découvert et qu'il a rencontré Jésus. Souvenez-vous. En passant au bord de la mer de Galilée, il, Jésus, vit Simon et André, frères de Simon, qui jetaient leur filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Jésus leur dit: « Venez à ma suite, je vous ferai devenir pêcheurs d'humains. » Aussitôt, ils laissèrent le filet et les suivirent. Simon et André se voient donc proposer un nouveau défi. Et j'ai toujours été impressionnée par ce que j'ai envie d'appeler le mystère de la vocation, le mystère de l'appel. Peut-être encore plus pour moi le mystère de la vocation pastorale, même si je travaille avec beaucoup de pasteurs, ça reste toujours un point d'interrogation, le petit moment où finalement, qu'est-ce qui se passe? En tout cas, un point commun, c'est qu'il y a à un moment donné une rencontre avec quelqu'un d'important, une rencontre avec Jésus. Et puis là, tout s'enchaîne. Simon est donc un disciple, quelqu'un qui a accepté de lâcher ses filets pour suivre Jésus. Or, où le retrouve-t-on dans ce récit que nous venons de lire? Il n'est pas près de Jésus avec la foule en train de l'écouter. Il a pris une certaine distance, il est retourné à ses filets. Oh, c'est pas qu'il soit tellement loin, mais il a le nez plongé plutôt à nettoyer ses filets puants. Et le récit nous fait comprendre par la suite, en fait, qu'il a travaillé pendant toute la nuit et qu'il n'a rien pris. Et lorsqu'on prend un dictionnaire biblique et qu'on recherche la signification du mot « nuit », on tombe sur quelque chose d'assez intéressant. La nuit symbolise un temps, le temps de la mort, où, et c'est là que ça se complique un petit peu, la nuit c'est aussi un temps de péché ou de honte, de stupidité morale. Alors je me suis posé la question, se pourrait-il que le texte veuille nous dire implicitement que Simon s'est planté, qu'il a eu un passage à vide, qu'il a peut-être fait des bêtises pendant la nuit, que le pécheur a péché? Et moi je trouve qu'on a quand même beaucoup de parallèles avec Simon, parce que quand on se retourne parfois, et là peut-être plus pour les adultes, sur notre vie, eh bien on se rend compte parfois qu'on a travaillé en vain. Oh, pas toujours uniquement sur le plan financier, mais qu'il y a une certaine lassitude qui s'est installée. On regarde en arrière et on se dit, qu'est-ce qui s'est passé? On a de la fatigue, qu'elle soit physique ou morale. Peut-être aussi qu'on a pris ses distances, les uns avec les autres. Et il y a bien des moments où il faut se l'avouer aussi, on a fait du grand n'importe quoi. On a eu des moments d'égarement, des moments de stupidité morale. Des moments où on entend de loin la voix de Jésus, mais où on ne l'écoute pas vraiment. Où on préfère laver nos filets, en espérant faire disparaître le goût de poisson, en espérant faire disparaître notre culpabilité. Est-ce que vous sentez à quel point nous ressemblons à Simon? Et voilà qu'arrive Jésus. Oups! Et les premiers mots qu'il a pour Simon sont des mots de reproche. Une fois de plus, il n'était pas à l'heure pour le sermon. Une fois de plus, il n'a pas écouté la prédication. Une fois de plus, il a fait des bêtises pendant la nuit. C'est vraiment là les paroles de Jésus? Rappelez-vous le texte. Il monta dans l'un de ses bateaux qui était à Simon et lui demanda de s'éloigner un peu du rivage. C'est tout? Ben oui. C'est tout. Qui prend l'initiative? Jésus. C'est Jésus qui va monter dans la barque de Pierre. Et on peut imaginer, après une nuit blanche, ou après une semaine de travail, en tout cas après une nuit blanche, Pierre n'est sûrement pas en état de faire grand-chose. Mais bouger une barque, eh bien oui, ça c'est dans ses cordes, ça il a encore un petit peu d'énergie pour le faire. Rien de bien compliqué, et surtout, pas de reproches culpabilisants. Jésus lui propose simplement de prendre un peu de recul par rapport à son travail, de changer de perspective. Un acte simple dans ses cordes. Et peu à peu, Simon va retrouver des forces. Parce que Jésus va continuer d'enseigner la foule depuis sa barque. Et là, il ne peut rien faire d'autre, il entend. Et ça va lui redonner progressivement de la confiance et de l'énergie. Alors on parlait de miracle tout à l'heure, n'est-ce pas déjà là un premier élément de changement, un premier élément miraculé. Un homme, au départ anonyme, va trouver ou va retrouver un nom, parce que c'est à partir de ce moment-là que l'on cite son prénom dans le texte biblique. Malgré sa puanteur, malgré sa fatigue, malgré son découragement, eh bien Jésus monte dans sa barque. La barque d'un pêcheur, même vide, c'est mieux que pas de barque du tout. Et j'ai envie de rajouter la barque d'un pêcheur, même vide, c'est mieux que pas de barque du tout. Et un deuxième miracle réside, selon moi, dans le changement d'attitude de Simon. Au verset 5, « Mais sur ta parole, eh bien, je vais jeter les filets. » Avec la confiance retrouvée, malgré les doutes, malgré son découragement, Simon va obéir, et on connaît la suite. Les filets vont se remplir, ils vont même se casser. Et il y a cette merveilleuse conclusion au verset 10, N'aie pas peur. Désormais, ce sont des êtres humains que tu prendras. Waouh. N'aie pas peur. J'avoue que ça me fait du bien d'entendre cette phrase parce que nous vivons dans un monde qui fait peur. Nous avons aussi des problèmes, que ce soit au travail, que ce soit dans notre santé, dans nos études, le temps qui passe, le découragement. Jésus nous dit « n'aie pas peur ». Ça ne veut pas dire « laisse tout faire », mais « n'aie pas peur ». Et j'ai aussi un peu envie de m'adresser à vous les adultes, parce que quand on dit « n'aie pas peur, vas-y, bouge, les jette tes filets », on a envie de dire « allez les jeunes, c'est à vous ». Et effectivement, c'est à vous. Mais j'ai quand même envie de vous retourner la balle et de vous dire à vous les adultes, il faut peut-être vous bouger aussi. Je reviens un grand pas en arrière. Quel âge avait Abraham quand Dieu l'a fait bouger? Prochaine question de l'énigme biblique. J'ai du 80, 90, 100, non. Vous n'êtes pas tellement loin quand même. 75. Ce qui montre que finalement, à partir du moment où Jésus est dans la barque, eh bien, il y a des belles choses qui peuvent se passer. Ce sont des êtres humains que tu prendras. Et il y a encore un peu plus. Avance en eau profonde. Oser avancer en eau profonde, ça veut dire aller là où on n'a pas pied. Il faut arrêter de barboter avec un pied sur la rive et un pied dans l'eau. Il faut à un moment donné se lâcher, oser y aller à fond, s'engager, même si on ne maîtrise pas toujours tous les éléments. Et puis, l'eau profonde, ce n'est pas quelque chose de superficiel. Il faut peut-être apprendre dans la vie à aller creuser, à se regarder soi-même, à oser se regarder soi-même tel que l'on est, avec ses qualités, ses défauts. Oser regarder l'autre, dépasser le premier abord, le préjugé. Oser aller creuser plus loin dans la Bible, voir parfois des versets qui nous interpellent ou des interprétations qui vont remettre en question ce qu'on a toujours appris. Oser la profondeur, là où les choses sont réelles, personnelles, intimes, nouvelles.
Oser, c'est tout d'abord vaincre ma timidité, car il serait dommage de ne pas utiliser mes talents, parce que je n'ose pas sortir de moi-même.
Oser s'exprimer, et pas seulement de façon verbale, en faisant de mon corps une guitare qui chante ce qu'il y a dans mon cœur, au lieu de la considérer comme une boîte de conserve.
Oser être complètement, en un mot, vivre. Oser se comporter librement, par au rapport aux conventions et au qu'en dira-t-on.
Oser croire que la vérité, la liberté et l'amour sont de véritables forces qui peuvent construire le monde et pas des forces de violence.
Oser prendre contact avec les autres sans peur, parce que nous pensons qu'eux aussi veulent vivre d'une façon plus épanouie.
Oser prier avec nos frères, parce que nous savons que nous partageons la même foi.
Et Jésus va encore rajouter ceci. Jetez vos filets. Une belle invention, les filets. En voici un de filet. Alors réfléchissons un peu à comment faire un filet pour attraper des êtres humains. Effectivement, nous le voyons bien, finalement, de quoi est composé un filet? Je ne vais pas tenir 2 heures comme ça, répondez. Hein. De corps, donc de fil, et de quoi alors? Oui, et de nœuds, effectivement. Alors première réflexion. Quel fil utiliser pour notre filet à êtres humains? Est-ce qu'on va prendre un fil plutôt fragile ou plutôt résistant? Est-ce qu'on va prendre un fil souple ou plutôt rigide? Ah, je sais que là, il y a beaucoup de divergences dans les opinions. Est-ce qu'on va prendre du coton naturel ou du nylon artificiel? Est-ce qu'on va prendre de la corde plutôt fine ou plutôt épaisse? Faut-il quelque chose de doux ou peut-être d'un peu rugueux? La Bible ne nous donne pas vraiment d'indications précises. Il y a juste un petit bout dans le livre de l'Ecclésiaste qui nous dit que la corde à trois fils ne se rompt pas facilement. Et dans la Bible, beaucoup d'éléments vont par trois. C'est un signe de complémentarité, d'équilibre, de consistance. Alors, du fil, oui, mais il faut s'entourer d'autres brins. C'est bien de ne pas faire les choses tout seul. Alors, deuxième réflexion, les nœuds. Lesquels utiliser ? Vous savez qu'une partie de mon travail consiste à travailler avec les jeunes. Et il y a 2 mois, j'étais au camp. Et voici, en fait, bon, ce n'est pas les nôtres, mais c'était presque ça. En tout cas, à certaines époques, je pense que dans les camporés que vous avez vécu, il y avait pas mal de choses. En tout cas, avec les nœuds, voilà ce qu'on peut faire. Un cadre de vie. Ça date d'il y a 2 ans. Ça, c'était les pré-explos qui ont construit, voilà, tout un portique. Mais on peut aussi faire d'autres choses, des tentes sur pilotis, des endroits pour manger, des ponts, ça nous est déjà arrivé aussi. Et puis des choses beaucoup plus fines, beaucoup plus subtiles, de la dentelle, du macramé ou le nœud de foulard que je porte ici. Alors je sais que pour les jeunes, c'est toujours une catastrophe quand on commence à prendre les nœuds, mais une fois qu'on s'y intéresse, je peux vous dire qu'il y a des choses très intéressantes. Alors pour notre fameux filet, à être humain. Quel nœud va-t-on utiliser ? Alors, je vous en ai amené quelques-uns et puis je vous laisse choisir. Je vous propose tout d'abord le nœud simple. Bon, j'ai pas beaucoup d'enthousiasme apparemment. Peut-être qu'un nœud simple, oh, ça pourrait ressembler aux enfants. Après tout, est-ce qu'ils sont utiles dans l'église ? Ils sont petits, ce ne serait pas mieux d'attendre qu'ils soient un petit peu plus sophistiqués pour les utiliser? Il y a pourtant un proverbe qui dit « Celui qui ne se baisse pas pour ramasser une épingle n'est pas digne de trouver un livre ». Savez-vous qu'un nœud simple comme celui-ci sert à renforcer des nœuds plus complexes ou à les sécuriser? Alors, toujours aussi inutile mon petit nœud simple?
Non.
Les amateurs de foot, il y en a parmi vous? Non, non. Préférez jouer à 10 ou à 11? Ah, je m'en doute bien. Chaque personne est importante. Chaque petit nœud est important. Chaque enfant est important. Alors, autre nœud. Alors, vous voyez ici des nœuds de galère. Nœud de galère est principalement utilisé pour fabriquer une échelle de corde. Et on trouve ici, en fait, l'idée de progression, monter d'un échelon à l'autre. C'est important dans la vie de ne pas faire du surplace, mais de continuer à progresser, que ce soit physiquement, que ce soit mentalement, socialement, spirituellement, socialement. Et je pense que nous pouvons être fiers de notre programme JIA qui, grâce à un programme varié, eh bien, aide nos jeunes à devenir des adultes responsables. Il y a quelques conditions toutefois, parce que si l'espace entre les échelons est trop grand ou s'il n'est pas adapté à la personne, eh bien, la progression va être entravée. De même, si on veut précipiter les choses, si on ne prend pas le temps de bien mettre son pied ou si on ne le met pas bien au centre qu'on met sur le côté, on risque de tomber. Oui, il y a des choses qui prennent du temps et qu'il faut faire dans l'ordre. Oh, on pourrait citer certainement tout ce qui concerne la sexualité. Il y a des choses qui se font par étapes en fonction du développement de la personne, mais aussi au niveau de la foi. Il y a une certaine progression à respecter. Et c'est le cas pour chaque enfant qui va avoir un rythme différent, mais aussi pour chaque adulte. Je vous ai parlé de Pierre qui était jeune, mais il y a aussi des jeunes dans la foi, même s'ils sont plus âgés. Alors pour monter, vous le voyez, il faut s'appuyer sur des bâtons. Il faut qu'ils soient solides. Et là, j'ai envie de vous poser la question à vous, parents, à vous, Église. Êtes-vous des bâtons solides sur lesquels vos enfants, vos jeunes peuvent s'appuyer pour continuer leur progression? Êtes-vous là pour les soutenir de façon durable et de façon efficace? Êtes-vous solide? Le nœud de galère, c'est un nœud très facile à faire. Mais si on le fait de travers, il s'affaisse. Parce que je l'ai fait en fait dans le mauvais sens. Oui, le bon sens. J'ai envie de dire le common sense, avoir du bon sens parfois dans ce qu'on fait, tout simplement de la réflexion, mais aussi le bon sens. Appuyer, s'appuyer sur des choses qui ont de bonnes valeurs et qui permettent en fait de s'élever. Et finalement, si une échelle de corde reste comme celle-ci, elle ne servira pas à grand-chose. À un moment donné, il faut bien la fixer quelque part. Et c'est parce que la croix est un peu haute, mais sinon je l'aurais fixée avec plaisir. En tout cas, le symbole est là, pouvoir la fixer à quelque chose qui nous montre le bon exemple et qui nous montre la bonne direction. J'ai encore quelques nœuds. C'est le nœud de chaise. Alors, il a un petit nœud de chaise. À quoi sert le nœud de chaise? Ça, c'est facile, je vous donne quand même un... Eh bien, un nœud de chaise, c'est un nœud de sauvetage. Ça permet de remonter quelqu'un qui est au fond du trou. Et effectivement, l'Ecclésiaste nous le dit, il y a un très beau verset qui nous dit « Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils ont un bon salaire pour leur travail. Car si l'un tombe, l'autre relève son compagnon. Mais quel malheur pour celui qui est seul et qui tombe, sans avoir un autre pour le relever. » Je vous l'accorde, quand quelqu'un est au fond du trou, ce n'est pas évident de l'obliger à s'installer dans un nœud de chaise. Mais le minimum que l'on peut faire parfois, c'est d'envoyer la corde. Après, ce sera à lui de choisir. Mais c'est quand même de notre responsabilité de lui envoyer la corde. Combien de fois ne passons-nous pas à côté de gens qui sont dans le trou, qui sont un peu en marge de notre société? Est-ce que nous allons leur dire « Suis-je le gardien de mon frère ?» Allons-nous jouer au bon samaritain ou allons-nous passer notre chemin? Je pense que nous avons déjà pas mal de nœuds pour accueillir, en tout cas pour fabriquer un filet qui commence à avoir de l'allure. Mais il en reste encore un. Petite idée? Oui, ah, qui c'est? Oui, évidemment, Cocker, c'est logique. Tu me rassures, on n'a pas passé des heures à l'époque pour rien. C'est un nœud qui s'appelle aussi le nœud de l'amour vrai. Et contrairement au nœud plat, où les deux brins doivent avoir la même grosseur, doivent être identiques, eh bien ce nœud de pêcheur permet de relier deux cordes complètement différentes, de textures différentes. C'est un nœud qui respecte l'autre dans ce qu'il est, avec ses différences, qu'elles soient de caractère, d'approche par certaines idées, différences de sensibilité, différences dans les trois petits points que je vous laisse compléter. La seule condition pour qu'il puisse fonctionner correctement, eh bien, c'est qu'il regarde dans la même direction. Et à ce moment-là, eh bien, on peut tirer. Et voilà. En tout cas, c'est un des nœuds les plus solides. Alors, il y en a qui se sont même amusés à faire ceci. Voilà, le smack, le nœud de l'amour. Le nœud de l'amour inconditionnel. Et ce mot inconditionnel, j'avoue que j'étais assez interpellée quand il m'est venu à l'esprit parce que je me suis dit, est-ce que je suis vraiment prête à aimer mes voisins, mes frères et sœurs de façon inconditionnelle? J'avoue que je prends une grande respiration. Quand on parle du conjoint, c'est assez simple de se dire « Oui, oui, je t'aimerai, peu importe ce qui va se passer. » Mais, c'est pas si évident que ça. Déjà pour le conjoint, mais quand on parle des autres, « Oui, je l'aime bien, mais... » Automatiquement, on va rajouter un « mais ». Alors, je vous invite peut-être à réfléchir sur cette notion d'amour inconditionnel. Nous sommes sûrs, en tout cas, de l'avoir de la part de Dieu, mais sommes-nous prêts à le transmettre également? C'est un défi, hein, je vous rassure, pour moi aussi. Voilà, nous avons déjà pas mal de nœuds pour faire notre filet. Pourtant, il faut avouer quand même que la métaphore du filet que je viens d'utiliser comme illustration a ses limites. Parce que finalement, un filet, c'est quoi? C'est un piège, ne dit-on pas, tomber dans les filets d'un prédateur. Eh bien, c'est là qu'intervient le génie biblique. Vous savez, de temps en temps, dans la Bible, il y a des petites perles. Et celle-ci, pour moi, elle est magnifique. Alors, on va faire un peu de grec. Parce que quand Jésus va utiliser le mot pêcheur et de poisson, il va utiliser en fait deux mots grecs, agra et alios, qui veulent dire, comme vous le voyez, pêcher et pêcheur. On pêche du poisson. Mais quand il parle de pêcher des êtres vivants, il va utiliser un autre verbe qui s'appelle zogreo et qui veut dire, tenez-vous bien, prendre vivant. La foi, la religion, l'Église ne doivent pas devenir un piège où nous allons faire tomber nos contemporains. La foi en Jésus, l'Église est, devrait être, un endroit où chacun garde son autonomie, son souffle, son libre arbitre. Un jour, vous avez accepté de monter dans la barque ou dans le filet de Jésus. J'espère que vous ne vous sentez pas pris au piège, parce que Jésus nous a en fait libérés de la puanteur, et il nous offre une perspective de vie. Tout d'abord ici, sur cette terre, si nous choisissons la bonne direction, je pense qu'il y a des choses merveilleuses à faire, peu importe notre vocation, mais aussi peut-être plus tard, une vie que nous ne connaissons pas, mais qui nous est promise comme merveilleuse. Et il y a un autre aspect qui me touche beaucoup, c'est qu'à la fin du récit, eh bien Pierre, qui a retrouvé de l'énergie, qui a rattrapé du poisson, il va appeler ses amis à la rescousse. Lui qui était découragé, abattu sur ses filets, eh bien, va retrouver l'énergie, il va la partager avec les autres, parce que pêcher du poisson, c'est un travail d'équipe. Et pêcher des êtres humains, c'est aussi un travail d'équipe, un travail où il faut s'encourager, où il faut s'épauler, où il faut s'entraider. Le travail dans une église ou dans une fédération, c'est certainement un travail d'équipe. Et ce matin, je voudrais adresser un mot d'hommage et de remerciement à tous les responsables, tous ceux qui ont accepté une fonction. Parce que grâce à ce travail d'équipe, eh bien, votre Église, elle peut continuer à avancer. Et je voudrais vous encourager aussi parce que vous êtes déjà pas mal nombreux ce matin, mais je pense que ce n'est pas la quantité qui va jouer, mais c'est la qualité de votre accueil, à l'image de celle de Jésus envers Simon. Des mots de bienveillance, et parfois peut-être même pas de mots du tout dans certaines circonstances. Je ne sais pas quel est votre avenir en tant qu'Église. Je ne suis pas prophétesse, j'ai pas reçu un message à votre sujet, mais je sais en tout cas que des très belles choses peuvent arriver, que l'on soit jeune comme Simon ou que l'on soit plus âgé comme Abraham. Il y a encore beaucoup de poissons sans filet, beaucoup de personnes sans histoire, beaucoup d'enfants à aimer. Et pour clôturer ce service, eh bien, je vous invite à faire un geste symbolique. Parce que pour travailler ensemble, il faut s'apprivoiser, il faut se connaître, il faut s'encourager, oser se regarder, s'épauler, s'entourer. Alors pour ceux qui le veulent, eh bien, je vais vous proposer de venir prendre ce filet, de le tenir en main et de chanter tous ensemble un chant qui s'intitule « Nous sommes un dans un lien d'amour ». Alors oui, ça va vous bousculer, je vais vous faire bouger de vos rangs, mais... Utilisez-le comme le symbole et chantons tous ensemble. Si vous n'arrivez pas à toucher ce filet et que vous le sentez ou pas, prenez-vous par la main, par les épaules, formez un lien d'amour. Et ensuite, nous clôturerons par une prière. Alors voilà, si vous avez envie de pêcher des humains, le filet est à votre disposition.